Bonjour, bienvenue sur Les Petits Plus Zen, le podcast pour faciliter et savourer sa vie en famille. Je m'appelle Séverine, je suis facilitatrice en parentalité après avoir été 22 ans professeure des écoles en maternelle REP+. Chaque semaine, je te propose ici des pistes et des thèmes approfondis sur la petite enfance, l'éducation et la communication pour que tu retrouves le plaisir des relations familiales sereines et épanouies. Une de mes missions est de t'aider à mieux comprendre et apaiser les émotions de chacun pour installer un équilibre entre tes besoins personnels et ceux de ta famille et enfin retrouver du temps pour toi. Je te partagerai aussi mon expérience en classe de maternelle, des découvertes apprises en formation et des outils inédits et actionnables facilement que j'ai créés au fil du temps à l'école et à la maison. Pour ne manquer aucun épisode, abonne-toi s'il te plaît sur ton application de podcast préférée et participe généreusement à la diffusion de mon travail en laissant un avis et une note de 5 étoiles. Pour plus de contenu, d'inspiration et de motivation, retrouve-moi aussi sur Instagram, Facebook et Clubhouse sous le nom Les Petits Plus Zen. Sur ce, je te souhaite une belle écoute. Bonjour, vous écoutez l'épisode 72 du podcast Les Petits Plus Zen. Nous allons parler aujourd'hui du Terrible Two et comment survivre à cette étape du Terrible Two. Je vais vous faire la même annonce que j'avais faite sur l'épisode 45 qui parlait des bêtises et l'épisode 42 qui parlait des caprices. Je vous annonce bien gentiment que le Terrible Two n'existe pas. Oui, c'est choquant. Oui, ça fait bizarre. Mais que le Terrible Two, c'est un magnifique outil marketing et business pour vendre des offres, des programmes, des livres et pour, en quelque sorte, dire aux parents qu'ils vont en chier et dire aux parents que, de toute façon, cette période, elle est difficile pour tout le monde et qu'elle est difficile à résoudre. Et en gros, préparez-vous, armez-vous, mettez votre treillis, sortez les armes et battez-vous avec votre enfant pour avoir raison, pour le dominer, pour le soumettre, parce qu'il est en pleine période de rébellion et en pleine période d'affirmation. Donc j'ai forcé le trait exprès pour vous montrer à quel point le Terrible Two, c'est une étiquette supplémentaire sur la phase de développement de l'enfant, qui est quand même une phase complètement normale dans sa physiologie, dans son autonomie, dans le fait qu'au niveau cérébral, cognitif et émotionnel, il soit en pleine découverte de ses capacités, de ses compétences. On avait fait aussi un long épisode sur les stades de développement de l'enfant. Je vous remettrai les liens de tous les épisodes connexes dans la description de cet épisode. Mais entre les bêtises, les caprices, le développement de maturité de l'enfant et sa manière d'apprendre le monde, on va reconsidérer aujourd'hui que le Terrible Two, c'est la magnifique occasion de voir à quel point votre enfant est pré-câblé pour croquer ce qui arrive autour de lui, au niveau des connaissances, au niveau des savoirs, au niveau des découvertes, et que le déséquilibre qui se produit dans la famille est compréhensible, légitime. On va même en toute empathie dire que oui, c'est compliqué parce que ça va mettre des changements bout à bout qui nous vont nous déranger dans notre petit train-train, surtout si on avait trouvé un petit rythme de croisière entre ces 12 et 18 mois, quand l'alimentation s'installe un peu mieux, quand le sommeil est un petit peu régulé, de se rendre compte que là, la période du non arrive, qu'il ne veut plus écouter comme il écoutait avant, peut-être que vous considérez aussi qu'il n'obéit plus comme avant. Tout ça, ce sont des perceptions. Je vous renvoie à l'épisode de la semaine dernière sur le lien entre ce qu'on voit de notre enfant et ce qu'on se raconte sur son comportement. Si on code que notre enfant n'obéit pas, n'écoute pas, est pénible et que c'est désagréable, bah ces quatre pensées étincelles nous mènent plutôt à l'affrontement avec notre tout petit qui lui veut juste découvrir comme un scientifique le fin fond du Graal, le fonctionnement de son quotidien, de son autonomie, de son appartement, de sa maison, peut-être des relations humaines. Il cherche des clés de compréhension et oui, ça va impacter notre organisation. Oui, ça va déséquilibrer notre manière de voir à la fois notre enfant et notre tranquillité d'esprit, parce qu'à chaque moment où il va mettre une expérience en route, on va pouvoir nous se dire « Aïe, il va falloir que je reformule que cette expérience est bien pour lui, qu'il en a besoin pour grandir, qu'il cherche la limite, que c'est pas de la provocation, c'est juste une maturité à encadrer, à réguler, et que ce terrible tout tel qu'on nous le présente, comme si c'était un enfant qui devenait un démon dans notre vie d'adulte, me dérange profondément. Et vous l'aviez déjà entendu dans l'épisode sur les caprices et sur les bêtises. Donc le descriptif, c'est que c'est un passage où, à la fois dans l'affirmation physique, verbale, dans les actions et dans même le non-verbal, parce que vous voyez sur son visage des signes d'affirmation qui vont mettre en doute toutes les notions que vous avez essayé d'installer depuis qu'il est petit. À ce moment-là de sa vie, il va se rendre compte qu'il commence à avoir du pouvoir sur les objets extérieurs et peut-être commencer à avoir du pouvoir sur les gens qui habitent avec lui, à savoir la fratrie, hein, les frères, les sœurs, papa, maman, peut-être un peu la babysitter, peut-être un petit peu la référente de crèche. Il va commencer à tester son action et les causes, les conséquences à chaque fois qu'il va interagir avec papa, maman, la nounou, la babysitter. Donc, lancer les objets pour voir ce que ça donne, lancer la cuillère pour voir ce que ça donne, quelles seront les réactions de l'adulte en face de lui. Est-ce que ça va être des réactions mesurées, des réactions identiques d'une fois sur l'autre? Est-ce qu'il va y avoir un éclat? Est-ce qu'il va y avoir une punition? Est-ce qu'il va y avoir une action en retour qui va lui convenir ou pas? Il va affiner sa base de données à chaque fois que vous allez interagir avec sa propre expérience. Et si vous regardez bien et que vous vivez cette période-là en ce moment, il va y avoir des fois des moments où juste le fait qu'il commence une action, vous êtes presque en train de vous dire « Oula, est-ce qu'il va encore déborder ou pas ?» Mais finalement, l'enfant, c'est sa fonction de faire des actions. C'est vraiment son rôle. Quand j'avais le dispositif des moins de 3 ans à l'école, chaque petite personne de ma classe, donc des fois il y en avait 16 dans la classe, chaque petite personne de la classe pouvait à tout moment avoir un comportement que je qualifie de débordant, mais qui pour lui, l'enfant, est juste un comportement d'expérimentation. Et là, je vous entends normalement réagir en disant « Oui, mais on ne va pas tout laisser faire. » Et absolument, on ne va pas tout laisser faire. D'ailleurs, les détracteurs de l'éducation positive et de la parentalité bienveillante sont tout le temps sur ce créneau-là que « Ah, ben vous laissez tout faire, c'est du laxisme. » Donc, on va mettre les points tout de suite sur les i. La parentalité bienveillante, la parentalité positive, l'éducation consciente, tous les noms que vous allez vouloir donner à l'étiquette, ça reste une étiquette malheureusement, mais à l'étiquette que vous voulez installer dans votre famille, c'est donner des repères à l'enfant pour qu'il puisse savoir ce qui est autorisé ou non. La difficulté, c'est qu'on n'a pas pu lui donner le catalogue des 822 pages. Dès la naissance, notre enfant n'a aucune idée de la procédure à adopter dans toutes les situations de la vie. Alors que nous, en tant qu'adultes, en tant que parents, enseignants, éducateurs, accompagnants, on a déjà une sorte de nomenclature de tous les comportements et les attentes, puisqu'on sait ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, ce qui nous arrange, ce qui ne nous arrange pas, ce qui nous crée des flammes agréables, ce qui ne nous crée pas des flammes agréables. On a un référentiel qu'on n'a pas pu expliquer à l'enfant, puisque matériellement, l'enfant n'est pas en capacité d'écouter tout ça. On ne va pas lui dire « ça tu peux, ça tu peux pas, ça tu peux, ça tu peux pas, ça tu peux, ça tu peux pas ». Depuis qu'il a 12 mois, on ne va pas lui dresser une liste de tout ce qu'il a le droit et de tout ce qu'il n'a pas le droit. La seule solution pour nous, que ce soit en classe ou à la maison, c'est de préciser quand l'enfant commence une action, quelles sont les attentes, ce qui est possible, ce qui n'est pas possible, et éventuellement de rediriger son expérience vers un endroit plus propice, vers une action plus compatible ou vers une durée ou une temporalité qui nous arrange le mieux. Parce que l'enfant qui a subitement envie de renverser son assiette de petits pois pour voir si les petits pois roulent, n'arrivent souvent pas au moment où on est disposé à voir la quantité de petits pois sur le sol de la cuisine. Néanmoins, on peut imaginer qu'à ce moment-là, il avait très envie de voir si les petits pois allaient tomber, rouler, et que rediriger l'attention de l'enfant en disant « Écoute, là c'est l'heure du repas. Le repas c'est que pour manger. Si tu ne veux plus de petits pois, tu me le dis. Si tu veux aller jouer avec des billes ou des cailloux ou avec un bac à semoule ou un bac sensoriel suivant ce que vous avez autour de vous, on peut y aller. Mais les petits pois ne sont pas une activité pour renverser les affaires. Si tu veux renverser, on ira le faire ailleurs. » Et de bien sectoriser son intention avec une idée qu'il était en train de faire une expérience. Il n'était pas en train de vous provoquer, il n'était pas en train de faire une bêtise ou un caprice ou de vous chercher ou de pousser la limite. Il était juste en train de faire une expérience. Il s'est dit, tiens, si je renversais mon assiette de petits pois, ça donnerait quoi? Mais nous, d'un coup, ça nous monte en flamme. Parce que nous, d'un coup, on dit, mais il fait exprès, mais il se fiche de moi. Et hop, Léopold nous a envoyé des belles pensées étincelles qui vont activer une flamme de colère, d'agacement, de frustration, de rage, de tristesse, de désespoir, d'impuissance. Tout ce qui traînait dans notre cheminée comme braise va être réactivé par ce simple geste factuel neutre. L'enfant a renversé son assiette de petits pois. Juste des petits pois par terre, sur un moment où on irait très bien et on aurait bien dormi et on n'aurait aucun autre problème dans notre vie, on n'en ferait pas toute une montagne de petits pois par terre. Mais la surenchère de nos attentes par rapport à cet enfant-là, ou par rapport aux autres qui crient, ou par rapport au fait qu'on soit en retard, ou qu'on n'ait pas fini le dossier, ou qu'on se soit disputé avec notre partenaire de vie, etc. C'est la liste des flammes qui étaient déjà limites dans notre cheminée, qui d'un coup, les unes se contaminent entre elles, ça bombarde dans notre cheminée, et on est capable de se mettre en hurlement pour une simple assiette de petits pois par terre. Je ne dis pas que ce n'est pas grave. Je ne dis pas qu'il ne faut pas réagir. Je ne dis pas qu'il n'y a rien à expliquer à l'enfant. Je dis juste, prenant conscience que dans un monde où on serait, nous, en pleine satisfaction de nos besoins, où on irait bien, on n'en ferait pas toute une montagne de ces petits pois par terre. Donc la première leçon de cet exemple-là, c'est que mieux on va, nous, en tant qu'adultes, plus nos besoins sont nourris et moins on va réagir sur les expériences de nos enfants entre 2 et 5 ans. Parce qu'on va admettre que le terrible tout, il y en a qui arrivent à le clôturer avant 5 ans. Et puis pour certains, à 5 ans, ce n'est pas encore fini parce qu'ils n'ont pas été au bout de leurs expériences. Et on y reviendra tout à l'heure. Mais tant que l'enfant n'a pas fini d'expérimenter, on va considérer qu'il est toujours dans la provocation. Donc c'est vraiment à nous de reformuler qu'il n'est pas en train de provoquer, il est en train d'expérimenter à chaque fois. Et plus on le laisse expérimenter sur tous les domaines de vie, que ce soit sensoriel, verbal, physique, relationnel, comportemental, sur la science aussi, il va pouvoir comprendre des choses sur sa rayure bleue, il va pouvoir se sentir en réalisation, en capacité sur sa rayure jaune d'identité. Il va sentir qu'il explore, qu'il découvre, qu'il fait ses propres choix et ses expériences sur la rayure verte. Et comme ça va nourrir ses besoins de découverte, de détente et de défi, il ira beaucoup mieux. Et comme il ira beaucoup mieux parce qu'il aura été entendu dans ses besoins au quotidien, il aura moins l'habitude de faire des expériences provocantes. Par contre, et ça vous l'avez sans doute vécu aussi, quand on punit, quand on empêche, quand on s'énerve sur le comportement, l'attitude ou la bêtise d'un enfant, la plupart du temps, il va quand même réessayer, non seulement pour voir s'il y aura les mêmes effets, ou alors pour voir si ça va changer en fonction de l'adulte, ou alors pour voir si l'action a la même conclusion, surtout s'il n'avait pas réussi à aller jusqu'au bout de son expérience la première fois, il va la réessayer juste pour avoir sa réponse. Donc, accompagner l'enfant à faire des expériences dans un cadre que vous avez choisi, qui vous arrange vous, à un moment qui vous arrange vous, par exemple tranquille, le week-end, quand il n'y a pas d'horaire à tenir, quand il n'y a pas de visiteurs et tout ça, ça permet à l'enfant de se créer une base de données nécessaire pour lui, d'expérience, de compréhension, de logique, de maîtrise du monde extérieur, qui se sente en capacité de faire ses premiers choix. On avait parlé beaucoup de la notion de choix dans l'épisode 22. Je vous invite aussi à le réécouter. Et en contrebalançant, l'enfant fait des choix, a le droit de faire des expériences. On appuie ces expériences dans un cadre limité. Je vous envoie aussi à l'épisode autour des règles de vie, qui était le 23, je crois, sur le fait qu'on n'est pas là pour accepter tout ce qu'il veut expérimenter, mais on est là pour donner des repères où certaines de ses actions restent possibles. Si on interdit tout à l'enfant, si on interdit à l'enfant de tout faire et de tout toucher, au bout d'un moment, l'enfant s'éteint complètement. Et j'ai déjà eu des familles dans le dispositif de moins de 3 ans qui me disaient « Ah non, à la maison, il n'y a pas de feutre, parce que sinon il va dessiner sur les murs. À la maison, il n'y a pas de ciseaux, sinon il va couper les rideaux. À la maison, il n'y a pas de colle, sinon il va en mettre partout. » Mais à un moment, notre enfant, il a besoin d'expérimenter ces matériaux-là en dehors de l'école, en dehors du centre de loisirs, pour pratiquer, pour s'entraîner, pour vérifier qu'il a bien le geste, qu'il a bien l'acquis, qu'il a bien la compétence. Nous, on en fait un risque de dérapage, et je comprends tout à fait. Moi-même, je n'ai pas fait beaucoup de peinture avec mes filles à la maison, parce que je n'avais pas envie des conséquences de la peinture sur ma vie. Et on en parlait récemment avec une des clientes qui avait mis la peinture à son fils pendant qu'elle voulait finir quelque chose sur l'ordinateur. Là, c'est très ambitieux, en fait. Parce qu'on veut permettre à notre enfant de faire une expérience et on veut à la fois avoir les bénéfices de la tranquillité. On a rarement les deux quand on est parents de jeunes enfants. Ça veut dire que pendant que notre enfant fait une expérience, nous, ça nous demande d'être à l'écoute des retours verbaux, de conditions, d'objets, d'utilisation, peut-être on ne se déplace pas avec la peinture, de rappeler les règles d'utilisation des objets comme si on lui présentait le manuel d'autorisation, le catalogue d'actions possibles. Et plus il va voir que l'adulte a les mêmes réponses au même moment, redonne les mêmes règles, redonne les mêmes repères, est le cadre nécessaire et sécurisant pour qu'il puisse expérimenter à son tour les causes, les conséquences, les effets, les réactions des gens. Et il va pouvoir faire des expériences à la maison, il va pouvoir faire des expériences dans la rue, il va pouvoir faire des expériences partout. Donc, à un moment donné, on sera quand même là, obligé de poser des mots, des comportements, des attentes, des attitudes en dehors de la maison. Donc cette histoire de se dire « je veux être tranquille, je ne donne pas de matériel pour qu'il fasse ses expériences à la maison », mais c'est le moment où il va essayer de le faire chez des amis pendant qu'on est tranquille sur la terrasse. On ne peut pas empêcher un enfant de faire des expériences. Mais on peut l'accompagner pour que les expériences qu'il va faire soient dans les meilleures conditions possibles. Et ça me rappelle une room aussi où on avait parlé de ça pour les adolescents, parce que cette crise du terrible tout, qui est parfois considérée par les experts comme une mini-crise d'adolescence, que je requalifierais plutôt d'affirmation de soi et d'autonomie dans son développement de maturation cérébrale, de maturation émotionnelle, elle se retrouve aussi à l'adolescence. À l'adolescence, ils ont envie de faire leurs expériences et d'être entendus pour « mais je veux voir les réactions, les conséquences, les comportements, les causes ». Donc, vous n'avez peut-être pas encore d'adolescent à encadrer et à accompagner, mais votre petit bout, là, s'il a entre 2 et 5 ans, tout ce que vous allez lui donner comme compréhension, comme valorisation, comme affection, de ces expériences qui, oui, parfois vont mal finir. Parce que oui, il va se lancer dans quelque chose qui va avoir des débordements, ça va être mal découpé, il va y en avoir partout. Il y a des effets, il y a un impact des expériences de l'enfant. Mais ce qu'on aime bien rappeler en maternelle aussi, quand on fait les réunions aux parents, c'est que c'est le processus de l'action qui est plus important que le résultat. Si l'enfant a été entendu dans son besoin d'expérimenter, de découvrir, de manipuler, d'essayer tout seul, la première fois qu'un enfant essaye de verser de l'eau avec un broc, avec un pichet, il y a de fortes chances qu'il y ait de l'eau à côté. Mais c'est la pratique, c'est la répétition qui va lui permettre d'affiner son geste, de se sentir confiant et à la fin de se sentir tellement fier quant au goûter avec les cousins-cousines, c'est lui qui va servir le jus d'orange à tout le monde. Pour acquérir une compétence, il a dû s'entraîner. Et je vais refaire quand même un petit point sur ce qui est possible en collectivité. Parfois en collectivité, les enfants n'ont pas le temps de s'entraîner suffisamment. Donc si à la maison, au centre de loisirs, en famille ou pendant les vacances, ils arrivent à s'entraîner un peu plus, eh bien la maîtrise du geste va leur donner confiance, va renforcer leur estime d'eux. Donc c'est réellement là dans cet épisode, ce que je voudrais vous inviter à faire, c'est de voir quelle posture on a face à l'expérience de l'enfant de 2 à 5 ans. Si on se met en juge, si on se met en prescripteur d'action, de comportement, d'attitude, on va rester dans un rapport de domination. On va rester dans « je sais ce qui est bon pour toi, c'est moi qui décide ». Et là, le cadre va être trop serré, trop ferme, pour que l'enfant puisse essayer de voir ce qui lui correspond, d'affirmer ses compétences, peut-être de voir ce qu'il aime ou pas dans sa singularité. Et vraiment, on est dans la rayure d'identité. On avait fait aussi un épisode sur la rayure d'identité. Je vais vous remettre aussi le numéro de cet épisode-là. Et de dire que l'enfant, une fois qu'il a bien compris qui il était, comment il réagissait, ce qu'il aimait faire, ses goûts, sa connaissance de lui-même et sa connaissance de ses émotions, il sera non seulement plus autonome et donc il y aura moins de catastrophes, moins de débordements, mais en plus ça va tellement renforcer son estime de lui que la relation que vous gagnez avec cet enfant va nourrir les deux côtés en fait de la rayure orange, la vôtre et la sienne. Ça va vous faire un lien de connexion, de confiance en disant « mon parent m'accompagne dans mes expériences, mon parent m'aide à grandir ». Oui, ça n'a pas l'air de lui faire plaisir parce qu'il décote quand même hein, sur notre visage si là il y a eu couac, bêtise ou si c'était allé trop loin. Et comme on disait dans l'épisode sur la contamination émotionnelle, il y a des moments où on va exprimer que là c'est trop, que là c'est pas le bon moment parce qu'il ne s'agit pas de laisser passer tout. Il s'agit de trouver le juste milieu entre mon enfant a besoin d'expérience pour grandir, d'expérimenter, de passer à l'action, d'avoir du matériel adapté à son âge pour vérifier son impact sur le monde et à la fois, il a besoin de repères, il a besoin de structures, il a besoin d'entendre les limites de chacun, il a besoin d'entendre les règles de collectivité, de communauté et que non, on ne peut pas découper les cheveux de la copine, oui, on peut découper sur un papier, demande-moi un papier. Non, on ne peut pas peindre sur le chat. Oui, je peux te donner une affiche pour peindre. Ou tu peux prendre des pinceaux et prendre de l'eau et aller peindre sur le trottoir. L'enfant qui commence à faire ce qu'on qualifie de bêtise, c'est réellement qu'il a un élan pour expérimenter quelque chose qui va faire sens dans sa tête. Donc présentons-lui des conditions, du matériel, un lieu et une temporalité qui soient plus adaptées à notre vision du monde, puisque sa vision du monde à lui est très restreinte, très petite. Une fois de plus, il n'a pas le catalogue, il n'a pas le manuel de ce que vous attendez en entier de lui. Et même si on lui a répété déjà 2, 3, 4 fois, c'est une longue, longue, longue répétition d'éduquer un enfant jusqu'à ce qu'il puisse se rendre compte tout seul si c'est une bonne chose ou une mauvaise chose. Et si votre enfant est un peu plus âgé, vous pouvez même commencer à lui poser la question. Qu'est-ce que tu penses du résultat? Est-ce que le résultat de ton action était une bonne idée? Est-ce que le résultat de ton action t'a amené à comprendre quelque chose? Qu'est-ce que tu as compris de ton action et de ton expérience? Qu'il soit en phase de métacognition, comme on disait sur l'atelier philosophique, qu'il se pose des questions qui développent son esprit critique sur le fait que son action a eu des conséquences sur la vie des autres, sur l'état de la maison, sur l'état du jardin. Je me souviens d'une petite fille qui avait coupé toutes les fleurs du jardin de sa grand-mère. La grand-mère était arrivée en rage et en avait collé une à sa petite fille. Mais la petite fille, elle s'est dit, je vais cueillir les fleurs, je vais faire un bouquet. Pour elle, il y avait une intention qui était magnifique. Sauf qu'on ne lui avait pas rappelé que les fleurs du jardin, on ne les coupait pas. Qu'un bouquet, ce n'était pas comme ça qu'on l'obtenait, le bouquet. Ou alors qu'on pouvait demander avant de couper des fleurs pour faire un bouquet. Donc, tout le processus mental de l'enfant est à construire, à co-construire, je dirais même, en fonction des réactions de l'environnement. Mais si l'environnement est descendant et punissant et est extrême et définitif, ben, l'enfant se dira « Ok, donc dès que je fais quelque chose, je m'en prends une ou je me fais punir, du coup, ben, je ne vais rien faire devant leur dos, je vais tout faire en douce. » Ça peut être aussi un fonctionnement qu'on pourrait regretter plus tard. Ça veut dire qu'au lieu d'accompagner notre enfant à faire des expériences en présence d'un adulte, il va avoir tellement envie de le faire qu'il le fera en dehors du champ d'observation de quelqu'un, au risque de se mettre encore plus en danger. Alors que si on l'accompagne pour mieux comprendre que non, les fleurs, on ne les découpe pas au ciseau, que oui, sa grand-mère est triste parce qu'elle aimait beaucoup les fleurs de son jardin, que oui, elle ne s'attendait pas à voir son jardin avec tout coupé, etc. On va beaucoup verbaliser, hein, c'est l'épisode 12, on va beaucoup expliquer, donner du sens, de la cohérence, c'est l'épisode 11. Et quand l'enfant aura eu plein de répétitions de cette cohérence, de ses actions de cause-conséquence, il sera plus à même de voir à son tour si là il va trop loin ou si il cherche la limite de l'adulte. Il peut y avoir des comportements extrêmes où l'enfant a très bien compris ce qui allait se passer et que ce soit malheureusement la seule manière d'attirer l'attention de son parent. Donc on avait eu ça en réunion d'équipe à l'école aussi. Les enfants qui cherchent l'attention de l'adulte peuvent le faire par des bêtises, par des... le mot provocation me vient, mais c'est parce que c'est vraiment une étiquette qu'on met très régulièrement. Sentir que l'enfant qui répète la même bêtise tout le temps, est-ce que ce n'est pas une manière d'attirer notre attention ? Donc voilà, beaucoup, beaucoup d'éléments autour du terrible tout. Je voulais vous inviter à voir le comportement de l'enfant un peu différemment, hein, comme on l'avait vu dans l'épisode 67, à mettre en place des règles qui fassent sens pour votre famille, pour votre configuration, suivant l'âge des enfants, la fratrie. Donc de voir comment il peut faire des choix quand même avec ses règles de vie, donc dans l'épisode 22 et 23. De voir la posture de l'adulte, qui est d'abord un observateur, qui essaye de comprendre l'intention de l'enfant sur une échelle de développement, de maturité cognitive, de maturité émotionnelle, sans rentrer dans le clash, mais en favorisant le dialogue avec l'enfant et la connexion avec l'enfant, et enfin de donner au maximum des repères pour que dans un cadre sécurisé, l'enfant puisse essayer, tester, affiner ses stratégies, parce qu'on veut en faire un enfant indépendant sur le long terme, donc si on veut qu'il soit autonome et indépendant, c'est comme un stagiaire dans une entreprise. Il va passer à l'action sous une supervision, il va essayer tout seul. Oui, il y aura des ratés, il va corriger, ajuster. Donc, on va accompagner l'enfant à chaque nouvelle expérience. Et puis, le dernier point que je vous ai donné à la fin, c'est si l'enfant répète la même expérience que vous avez l'habitude de qualifier en bêtise, caprice, provocation, quel est le message qu'il essaye de nous faire passer en répétant encore et encore cette même bêtise, sachant que les comportements et les attitudes de l'adulte n'ont pas forcément été très agréables pour lui. Est-ce que c'est une manière d'attirer l'attention ? Est-ce que c'est une manière de chercher la connexion qu'il n'arrive pas à trouver autrement ? Donc, comme bien souvent, je vous invite à refaire peut-être l'exercice du scan de l'arc-en-ciel des besoins pour votre enfant. Donc vous avez tous les besoins qui sont redétaillés dans les épisodes 30 à 36, rayure après rayure. Asseyez-vous tranquillement, écoutez l'épisode 30 sur la rayure rouge de votre enfant, essayez de voir si tous ces besoins-là sont nourris, équilibrés à son âge, et puis après faites rayure après rayure, quelles activités pourraient mieux développer ce besoin-là pour lui, en fonction de son âge, en fonction de ce qu'il aime. Est-ce qu'on peut mettre plus de ses activités dans le week-end, plus de ses activités le mercredi après-midi? Comment est-ce qu'il a une sensation d'avoir un petit pouvoir sur le monde, d'être un petit peu acteur de sa vie, de sa configuration? Est-ce qu'il comprend les conséquences de ses actes? Est-ce qu'on lui a bien verbalisé que les contradictions entre ce qu'il fait et ce qu'il obtient ne lui rendent pas service? Et puis peut-être ont une ambiance difficile sur la famille. Parfois, je me rappelle d'une famille aussi où c'était toujours le même enfant qui faisait les bêtises. Donc, c'était intéressant de voir que la dynamique entre les trois frères trouvait un rôle qui était assez permanent. C'était toujours le même frère qui faisait les bêtises. Donc, quel était le message derrière? Est-ce qu'il faisait le clown pour amuser les autres? Est-ce qu'il voulait plus d'attention? Est-ce qu'il ne savait pas comment faire autrement pour attirer l'attention, etc. Donc, pas mal de petits points à regarder quand vous avez envie de qualifier votre enfant de terrible, de provocateur, d'insupportable. Ce sont des mots qu'on peut penser, bien sûr. Ce sont des mots qu'on peut avoir envie de dire. Ce sont des mots qui peuvent nous échapper parfois. Et dans ce cas-là, je vous invite aussi à mettre une étanchéité entre le comportement de l'enfant et votre cheminée des émotions pour éviter de parler avec des mots qu'on pourrait regretter plus tard. On l'a tous vécu, on a tous dit des mots qui ont dépassé notre pensée, on a tous eu des comportements à un moment qui ont été un peu trop loin alors que notre enfant voulait juste faire une expérience. Le but, c'est de ne pas devenir un parent parfait, il n'y a pas de parent parfait, mais l'important, c'est de voir que on n'avait peut-être pas décodé toute la situation parce qu'on était nous-mêmes dans une autre flamme, dans une autre activité. Ce qui est tout à fait normal puisqu'il n'y a pas que notre enfant à s'occuper dans la journée. On a d'autres domaines de vie à nourrir et à réguler. Donc, chers parents, plein de soutien et d'encouragement si votre enfant vit cette phase d'affirmation de lui, d'autonomie de lui. Bien entendu, ça va évoluer, ça va passer. Ce sont des mises à jour de son système, ce sont des mises à jour de son développement intérieur qui peuvent être confrontants, qu'on peut vivre comme de l'opposition, qu'on peut vivre vraiment comme une sorte de contradiction de notre équilibre d'avant. Mais on peut aussi accepter l'idée d'impermanence. Vous aviez entendu une room sur ce sujet-là, je crois que c'était l'épisode 66, que vous pouvez réécouter aussi sur l'impermanence, parce que chaque stade de notre enfant va peut-être nous permettre de mettre à jour soit la compréhension qu'on a de cette petite personne, soit le rapport qu'on a avec nous-mêmes, ce que ça réveille en nous, sur nos étincelles, sur nos pensées. Et puis peut-être qu'on a à explorer cette partie de laisser notre enfant expérimenter, alors que peut-être que nous-mêmes, on n'a pas eu beaucoup cette phase-là quand on avait 2, 3, 4, 5 ans. Ça peut être quelque chose aussi d'ambivalent, de se dire « mais moi, je laisse faire mon enfant et il n'est pas reconnaissant de tout ce que je fais pour lui ». C'est quelque chose que j'ai entendu aussi parmi les mamans que j'accompagne. On peut se sentir en décalage en se disant « pourtant, je fais tout pour qu'il patouille, qu'il est à disposition du sensoriel, et quand même, il me provoque, quand même, il me cherche, quand même, il fait des colères ». Ça, c'est une pensée étincelle, donc je vous invite vraiment à regarder ce qui vous fait dire ça en vous, sur quel besoin ça vient taper, peut-être un besoin de comprendre pourquoi nous, on ne l'a pas eu. Peut-être un besoin de comprendre pourquoi on en fait tant pour notre enfant. Est-ce que peut-être on en fait trop de mise à disposition? L'enfant, il peut aussi entendre qu'il y a des limites dans notre organisation, dans notre planning, dans nos vacances, et qu'on peut aussi dire non. Il y a tout un épisode sur le dire non. Je vous invite aussi à le retrouver. J'aurai pas mal de références d'épisodes à vous faire comme proposition dans les notes de cet épisode. Mais en tout cas, je vous souhaite beaucoup de courage. Vraiment, on peut remplacer certaines limites par « je préfère que tu fasses ça » au lieu que ce soit toujours confrontant de dire « non, c'est pas possible, non, tu ne peux pas faire ça ». Donc, on peut rediriger l'attention. On peut aussi accompagner l'enfant en disant « j'entends très bien ». J'entends très bien que tu es frustré, j'entends très bien que tu voulais faire ça, mais on pourra le faire samedi, on pourra le faire mardi soir, tu pourras le faire avec tata, etc. De fermer la discussion sur le court terme, mais de la réouvrir à un autre moment qui vous paraît plus opportun pour votre vie, pour votre équilibre, et en prenant bien soin aussi de voir si vous êtes en capacité d'accompagner ce jour-là l'expérience de l'enfant ou pas. Et si vous n'êtes pas en état, ce qui est totalement compréhensible aussi au niveau de vos flammes d'émotion, de voir si vous pouvez passer le relais au partenaire de vie, à une personne de confiance, en disant bah, « là, ça fait trop d'expérience dans une journée, là mon enfant il est en pleine expérimentation, j'ai besoin de relais, j'ai besoin de prendre un tequila en solo, j'ai besoin de m'aérer, j'ai besoin de sortir de là parce que je sens que je ne serai pas dans l'accompagnement et je ne serai pas dans la bienveillance, je risque de m'enflammer encore plus et de ne pas réussir à maintenir une étanchéité entre son comportement et mes réactions. » Je vous souhaite beaucoup de courage de trouver autour de vous une personne de confiance qui vous accompagne au quotidien dans votre famille ou sur votre prochain projet parental. Si vous avez envie d'aller plus loin avec moi, le parcours Emotizen commence le 1er octobre. J'ai hâte d'accompagner toutes celles qui vont se donner une chance de mieux comprendre leur cheminée des émotions, leur arc-en-ciel des besoins et de retrouver la sérénité en famille. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine où on parlera justement de la parentalité bienveillante et positive des médias. Bonne semaine, au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode. Tu peux retrouver les thèmes et les épisodes précédents aussi sur lppzen.com/lepodcast. Pour soutenir mon travail, je t'invite à noter, commenter et partager le podcast, notamment sur ton application préférée comme Apple Podcast par exemple. Ton soutien est important pour moi pour permettre à d'autres parents de retrouver la sérénité en famille. On se retrouve pour un prochain épisode très bientôt et en attendant, prends bien soin de ta cheminée des émotions et de ton arc-en-ciel des besoins. À très vite.